ouvrir votre Bible, il faut que je vous dise où quand même, dans l'Épître aux Hébreux. C'est plus facile quand on sait où. La semaine dernière, nous avons parlé un peu de la sanctification pratique, je crois. Et nous avons vu ce passage où Paul encourage, 2 Corinthiens chapitre 7, à nous purifier nous-mêmes de toutes les souillures du corps et de l'esprit, en achevant notre sanctification, disait-il. Hein. Et donc, c'est vrai que nous devons faire des efforts dans notre vie, et j'espère que cette semaine, nous avons pensé à cela, et que nous avons demandé au Seigneur sa grâce pour vivre une vie de sanctification. Mais on doit reconnaître que c'est souvent difficile, hein. Parce que on compte parfois sur nous-mêmes. Parfois, on est découragé, puis on se dit bon, c'est pas la peine, c'est trop compliqué. C'est tellement plus facile de se laisser aller, de passer son temps devant la télé, de parler comme on a envie de parler, sans faire attention à quoi que ce soit. Et en lisant la parole, on voit que ce qui est important, quelqu'un le disait une fois, il disait que notre difficulté parfois dans la vie de sanctification vient d'un manque de connaissance parfois sur ce qu'est le péché et particulièrement aussi sur ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli. On a parlé de l'œuvre de Christ ce matin, ce qu'il a accompli à la croix. Et quand on lit l'Épître aux Hébreux, vous avez déjà lu très certainement la lettre aux Hébreux. C'est une lettre qui est adressée à plusieurs groupes de personnes, mais en particulier à des Juifs, des chrétiens d'origine juive, qui passent dans les difficultés. Ils ont bien commencé, mais si vous lisez chapitre 10, verset 32, par là, il est question qu'on voit qu'ils passent par, ces gens passent par des difficultés. Et l'auteur de la lettre les encourage à ne pas abandonner la marche avec le Seigneur, à ne pas abandonner le chemin, on pourrait dire, de la sanctification. Ils sont parfois tentés, puisque ce sont des gens d'origine juive, de revenir peut-être en arrière au culte traditionnel, au judaïsme, ou abandonner simplement la marche. Et l'auteur va les encourager. Et ce qui est intéressant quand on lit dans l'Épître aux Hébreux, c'est de voir comment il encourage ces chrétiens à continuer leur marche avec Dieu. Et lorsque nous encourageons les gens, essayons de penser à ce que nous leur disons. Ouais. Parfois, on peut utiliser des méthodes, je sais pas quoi, hein, pour pouvoir encourager. On ne sait pas parfois trop quel verset attraper pour aider ce frère ou cette sœur qui vit cette situation difficile. Mais toute l'Épître aux Hébreux a un seul but dans cet encouragement, c'est d'exalter la personne de Christ. Et ça, c'est extraordinaire quand vous lisez l'Épître aux Hébreux. Et plusieurs fois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, on sent que la volonté du Saint-Esprit, donc exprimée là par l'auteur, c'est de diriger les regards de ces chrétiens vers la supériorité du sacrifice de Christ. Et s'il le fait, c'est parce que, en le faisant, cela va encourager. Si les chrétiens regardent, méditent ces choses, cela va les encourager à marcher davantage avec le Seigneur sur le chemin de sanctification. Alors, je vous invite à regarder, on ne va pas lire toute l'Épître aux Hébreux, mais il y a une petite section que je trouve parmi d'autres, hein, bien sûr, encourageante et qui semble un peu résumer ce que l'Épître apporte comme enseignement. Donc, chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, et nous allons lire à partir du verset 1, Hébreux chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 1. En effet, la loi qui possède le nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Jusque-là, la lecture. Prions. Seigneur, nous avons besoin que tu nous éclaires, que tu nous illumines par ton esprit. Et nous te prions de nous garder, de nous donner la compréhension pour ta parole et que nos vies puissent te glorifier. Amen. Voilà, donc une section de ce livre, de cet épître aux Hébreux que je trouve est à la fois belle, mais elle est aussi très, très profonde. Hein. Elle fait une connexion. Hein. On a parlé de la table du Seigneur tout à l'heure. Le frère Jean-Pierre a lu dans le Lévitique. C'est un livre qui fait une connexion entre le Lévitique, l'Ancienne Alliance et puis la Nouvelle Alliance. Et je choisis ce passage parce qu'il est juste avant de passer à la partie purement pratique, on pourrait dire, de ce livre. Hein, verset 19, il dit « Ainsi donc, frères ». Et puis après, vous avez verset 22, « Approchons-nous ». Verset 23, « Retenons fermement ». Verset 24, « Veillons ». Verset 25, « N'abandonnons pas ». Ce sont toutes des exhortations, mais qui viennent après, on pourrait dire, un 10 chapitres d'exposition de la supériorité de l'œuvre de Christ par rapport, et particulièrement, au sacrifice de l'Ancienne Alliance. Et le verset 14 est un verset qui, je trouve, nous encourage. Il dit « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés », c'est-à-dire ceux qui sont en train d'être sanctifiés. Voilà. On a parlé de la sanctification la dernière fois, mais il est important ici de voir quel est le fondement même d'une vie de sanctification. Et le fondement même d'une vie de sanctification, c'est le sacrifice de Christ accompli à la croix du calvaire. Et ici, il nous est dit que ce sacrifice, par ce seul sacrifice, par une seule offrande, eh bien, Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui mènent une vie de sanctification sont déjà rendus parfaits par Christ pour toujours en vertu du sacrifice qui a été accompli à la croix du calvaire. Et donc, ce que l'auteur fait, c'est qu'il présente Christ pour encourager à la vie de sanctification. Et ce que nous voulons faire ce matin, c'est de très simplement de méditer un tout petit peu sur une partie de ces versets pour tourner nos pensées vers le sacrifice de Christ et voir l'efficacité du sacrifice de Christ dans notre marche dans la sanctification. On peut voir ici, premièrement, que l'efficacité du sacrifice de Christ est en rapport avec, bien sûr, le péché. On peut voir donc l'efficacité du sacrifice de Christ en rapport avec le péché. Je disais tout à l'heure que un auteur disait que notre mauvaise compréhension de ce qu'est le péché, parfois, nous laisse dans un chemin qui n'est pas le chemin de la sanctification. Notre mauvaise compréhension de ce qu'est le péché. Ici, quand nous lisons l'Épître aux Hébreux, vous ne pouvez pas rater le péché. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne parle pas de péché dans ce livre. Rien que dans le passage que nous avons lu, il est question de péché au verset 2, au verset 3, au verset 4, au verset 6, au verset 8, au verset 11, au verset 12, au verset 17 et au verset 18. Donc, on voit que ce qui est la question qui est en train d'être traitée ici est celle du péché. C'est celle du péché. Et on voit l'efficacité ici du sacrifice de Christ en rapport avec le péché. C'est ce qui est dit dans les versets 10. Il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Verset 11, il est dit que les sacrificateurs de l'ancienne alliance offraient plusieurs sacrifices qui ne pouvaient jamais ôter le péché, mais que Christ, lui, a offert un seul sacrifice pour les péchés. Et on voit que cette question du péché est une question extrêmement importante. Et qu'en tant que chrétiens, si nous voulons marcher dans une véritable vie de sanctification, il nous faut considérer le péché à sa juste valeur, si je puisse parler de valeur, en tout cas, le considérer comme il doit être considéré. Et ce qui nous permet de mesurer ce qu'est le péché, c'est encore une fois, c'est de considérer le sacrifice de Christ à la croix du calvaire. L'auteur ici montre cette supériorité du sacrifice de Christ et il montre son efficacité en rapport avec le péché. Il fait un parallèle entre les sacrifices de l'ancienne alliance. Quand nous lisons du verset 1 au verset 4, il est question de la loi et des sacrifices, verset 1, fin du verset 1, des mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année. Et qu'est-ce que l'auteur souligne, on pourrait dire, dans ce verset? C'est l'inefficacité de ces sacrifices en rapport avec le péché. C'est ce qu'il dit ici. Regardez au verset 1. Il dit, en effet, la loi qui possède le nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais... Il y a une impossibilité ici, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, amener les assistants à la perfection. Elle ne peut jamais faire cela. Et lisez le verset 14, ici. Qu'est-ce qu'il dit? Par une seule offrande, Christ a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. La loi et le système sacrificiel de l'ancienne alliance n'a pas cette capacité, et même c'est impossible qu'elle amène les assistants, ce qui rend un culte, ce qui s'approche de Dieu à la perfection. Et il dit que si tel avait été le cas, eh bien, on n'aurait pas cessé, n'aurait-on pas plutôt cessé d'offrir ces sacrifices, parce que ce qui rend ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Il dit donc que la loi ne pouvait pas le faire parce que la loi ne contient pas, dans la loi, il dit, la loi, elle ne possède pas l'exacte représentation des choses. Ce qui se produisait ici dans la loi n'est pas la pleine réalité de ce qu'il faut pour l'éradication, on pourrait dire, du péché. Il dit que si les sacrifices qu'on répète étaient efficaces, on n'aurait pas eu besoin de les répéter. Autrement dit, il dit que la répétition des sacrifices prouve leur inefficacité. S'il faut répéter et répéter et répéter encore quelque chose pour atteindre la perfection, eh bien cela montre, même cette répétition même, montre l'inefficacité de la multiplicité des sacrifices. Sinon, on les aurait arrêtés. Celui qui fait un sacrifice et qui est purifié véritablement, définitivement, ne reproduit pas le même sacrifice. Et il montre que le sacrifice de Christ est efficace en rapport avec le péché parce que c'est un sacrifice unique. C'est un sacrifice unique et qui, on l'a lu tout à l'heure, qui rend parfaitement, si je peux parler comme cela, parfaitement parfait, et qui sanctifie ici parfaitement. Et donc, le sacrifice de Christ est efficace sous le rapport du péché. La question de la perfection ici est très importante aussi dans l'Épître aux Hébreux. On ne va pas lire tous les passages qui y parlent, mais j'en ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dans l'ensemble de l'Épître aux Hébreux où il est fait référence à la perfection. Pour adorer Dieu et pour s'approcher de Dieu, il faut être parfait. On ne peut pas se présenter devant Dieu sans perfection. Et c'est pour cela que le système sacrificiel existait. Il fallait un prêtre, un intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et dans le système sacrificiel, dans le système du Lévitique, eh bien, il y avait le souverain sacrificateur qui, une fois par an, voilà, commençait par offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Puis, on l'a lu tout à l'heure, se présentait dans le lieu très saint avec pour faire des sacrifices pour les péchés du peuple. Il fallait un prêtre qui se sanctifie, qui se purifie pour offrir des sacrifices et pour que Dieu puisse être, pour que les êtres puissent être agréables à Dieu. Mais l'auteur montre ici que ce système même était imparfait parce qu'il fallait le répéter. Et on peut imaginer, quelqu'un faisait, imaginez les rivières et les rivières de sang qui devaient couler. Je ne sais plus combien de milliers d'animaux devaient être tués. Et l'auteur dit ici que même loin, même plutôt que d'ôter même le péché, il dit que la multiplicité ici des sacrifices faisait quoi ? Rappelait le souvenir des péchés. C'est-à-dire que quand ils regardaient à ces sacrifices, ils étaient ramenés à chaque fois à leur péché. Verset 3. Le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Et la raison pour laquelle cela est renouvelé, c'est qu'il est impossible que le sang des boucs et des taureaux ôte le péché. C'était quelque chose d'impossible. Le sang des animaux ne pouvait pas, en aucun cas, régler de manière définitive la question du péché ici. Et donc, la loi était incapable de conduire à la perfection à cause de la répétition de ces sacrifices, mais aussi à cause de la nature même de ces sacrifices. Parce que c'était des animaux, et des animaux involontaires, amoraux, ne peuvent pas payer pour des hommes dont la faute est morale. Donc, il fallait plus que cela. Et donc, à ceux qui sont tentés de revenir à des systèmes sacrificiels, l'auteur dit attention. ça ne peut pas, ça n'avait pas été donné pour que le péché soit effacé. Ça ne peut pas effacer le péché. Les sangs des boucs et des taureaux ne peuvent pas ôter le péché. Cela nous montre que la volonté de Dieu, la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas simplement de couvrir les péchés, mais d'ôter, d'extraire, de retirer, d'effacer, pourrait dire d'éradiquer de manière définitive le péché et de permettre ainsi à l'homme d'être parfaitement justifié et de pouvoir maintenant avoir une véritable communion avec Dieu. Donc la loi ne pouvait pas, par les sacrifices répétitifs, faire cela, ni par la nature même des sacrifices que l'on offrait. Et puis une autre chose ici que l'on voit à l'égard du péché encore, c'est que la Bible dit ici que ces sacrifices laissaient les hommes même insatisfaits sous le rapport de leur conscience. Regardez au verset 2, je crois, il dit ici, si les sacrifices purifiaient, eh bien, les hommes n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Tout le monde dit ici, le fait de répéter une chose, de la répéter ici, ne laissait pas les hommes satisfaits sur le rapport de la conscience. Il le dit au verset 9, hein, regardez au verset 9 du chapitre 9, il dit, c'est un symbole pour le temps présent, il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Donc Dieu n'est pas satisfait et l'homme n'est pas satisfait non plus dans sa conscience. Et la parole nous dit ici maintenant que le sacrifice que Christ offre, eh bien, rend Dieu satisfait, mais aussi l'homme sous le rapport de la conscience. Verset 14, il est dit, verset 13, chapitre 9, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il, quoi, votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Vous voyez, tous ces sacrifices qui étaient offerts ne laissaient pas ces hommes avec la conscience apaisée et ne pouvaient pas servir librement Dieu. Mais maintenant, par le sacrifice de Christ qui règle de manière efficace la question du péché, eh bien, il dit, le sang de Christ va même jusqu'à purifier la conscience pour que les hommes puissent, qui sont ainsi à Christ, qui sont ainsi en Christ, puissent avoir une véritable communion avec Dieu et servir le Dieu vivant. Ici. Donc, l'efficacité ici du sacrifice de Christ, on voit qu'il est efficace en rapport avec la question du péché. Il n'y a rien d'autre que le sacrifice de Christ, nous l'avons chanté, nous l'avons dit ce matin, qui puisse régler la question du péché. Ça n'est pas le fait de venir et d'offrir des œuvres continuelles qui va régler la question du péché. Ça n'est pas le fait de prêcher, de prêcher, de prêcher, qui va régler la question du péché. Ça n'est pas le fait d'être présent continuellement, d'être engagé dans l'Église qui règle la question du péché. La question du péché, elle est réglée par le sacrifice unique de Jésus-Christ qui a été offert ici une fois pour toutes. Et on peut voir que ce sacrifice, ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre de manière très claire, c'est que ce sacrifice est profondément efficace en rapport avec la question du péché parce qu'il peut rendre jusqu'à la conscience libérée afin que les hommes puissent servir Christ. Et puis deuxièmement, ici, l'auteur montre ici l'efficacité, je crois, aussi du sacrifice de Christ en rapport avec la volonté même de Dieu. Le sacrifice de Christ accomplit parfaitement la volonté de Dieu. Regardez les versets 5 à 9. Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Puis verset 8, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on trouve selon la loi, il dit, voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Et le verset 10 nous dit que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Et donc après avoir établi, on voit ici l'impossibilité de la loi rendre parfait, l'auteur nous révèle que quelle est la volonté de Dieu pour la perfection des croyants. Notez que c'est Christ lui-même qui parle ici. Il dit ici que Christ entrant dans le monde, je pense que cela fait référence au temps de son incarnation. Et l'auteur cite un psaume, le psaume 40, et le verset 7 à 9 à peu près, où il attribue les paroles de ce psaume à Jésus-Christ lui-même. Et qu'est-ce qu'il dit? Et c'est intéressant de considérer ce que Christ lui-même est en train a dit quand il s'apprête à rentrer dans le monde pour offrir le sacrifice. Hein? C'est quelque chose qui devrait attirer profondément notre attention ici. Il dit, verset 5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. La première chose qu'il dit, c'est qu'il montre ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Et ce qu'est la volonté, deuxièmement, ce qu'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, dit-il, n'est pas dans les sacrifices et les offrandes. Alors bien sûr, c'est Dieu qui avait institué les sacrifices et les offrandes sous l'ancienne alliance. C'est lui qui avait donné ce système sacrificiel. C'est sa volonté d'avoir mis ces choses en place. Mais ici, il est question du traitement définitif du péché. Hein. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché, un peu plus loin. Hein. Donc ici, en rapport avec le péché, Jésus dit que les sacrifices d'animaux et les holocaustes ne sont pas la volonté de Dieu. Et Dieu ne trouve pas du plaisir dans ces choses. D'autres passages nous le disent de manière très claire. Lorsque nous regardons, vous vous rappelez de cet épisode avec Saül et Samuel, où Saül avait, je crois, ramené des animaux qu'il n'aurait pas dû ramener. Et puis Samuel le reprend et lui dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les sacrifices et les holocaustes comme dans l'obéissance? Il dit, ce n'est pas dans les sacrifices, ce n'est pas dans les holocaustes, ce n'est pas dans la graisse des béliers que Dieu trouve du plaisir, mais dans l'obéissance. Sa volonté n'est pas dans les sacrifices d'animaux. En tout cas, ce n'est pas sa volonté pour le traitement de la question du péché. Donc Jésus exprime de manière forte ce qui n'est pas la volonté de Dieu, mais il exprime ce qu'est la volonté de Dieu. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Et on comprend, je pense, ce que cela veut dire. Là, il cite, l'auteur cite, si vous lisez dans le psaume, vous n'allez pas trouver, vous allez trouver, tu m'as percé l'oreille ou tu m'as creusé l'oreille. Bon, on pourrait dire que l'oreille appartient au corps, hein, c'est donc, et que c'est la même chose. Certains commentateurs disent, ben parce que le sens, c'est que aussi c'est avec l'oreille que l'on perçoit, que l'on entend la volonté de Dieu. Donc c'est une image qui montre cette écoute et cette soumission ici. Mais je crois aussi, surtout que l'auteur de l'Épître aux Hébreux cite ici la version qu'on appelle la version des Septante. Et c'est ainsi que les traducteurs de la Septante ont rendu ce « tu m'as percé l'oreille », ils l'ont rendu par « tu m'as formé un corps ». Le sens, je crois, profondément ici demeure. Et donc, mais on comprend ici, on voit ici se dessiner à l'incarnation. Il dit, tu n'as pas voulu des sacrifices d'animaux, mais tu m'as formé un corps. Ta volonté, c'est que je puisse avoir un corps pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir l'offrir en sacrifice. Et Jésus dit, alors voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. La volonté de Dieu, C'est un sacrifice volontaire. Sacrifice d'une personne et un sacrifice volontaire. La volonté de Dieu, ce n'est pas que le péché soit réglé à travers le sang des boucs et des animaux. Mais la volonté de Dieu, dit l'auteur ici, c'est que c'est l'obéissance qui conduit vraiment au véritable sacrifice. Ce n'est pas le sacrifice extérieur. Hein, il y a des gens qui se sacrifient pour des choses. Hein, ce n'est pas simplement le sacrifice extérieur, c'est le sacrifice d'abord du cœur qui conduit, de cette soumission du cœur de Christ qui conduit au sacrifice du corps. Et j'aime bien comment le texte dit, il dit « Tu m'as formé un corps ». Et on a l'impression, c'est comme si le Seigneur dit « Je comprends ce que cela veut dire, alors je me soumets et je fais ta volonté ». Et donc, toute sa vie, quand on lit les évangiles, on voit que Jésus n'a cessé de souligner qu'il est venu pour faire la volonté de Dieu. Et donc, le psalmiste ici montre que, quand on lit le psaume 40, qu'il y a une obéissance qui vient suite à une connaissance de la volonté de Dieu. Et ce que Dieu attendait de son peuple, c'était la même chose, qu'une fois qu'il connaisse sa volonté, eh bien, il puisse obéir. Et Christ ici montre cette parfaite obéissance. Il dit, voici, tu m'as formé un corps. C'est comme si je paraphrase, mais il disait, je comprends, je viens au Dieu pour faire ta volonté, pour me soumettre à ta volonté. Et donc on voit que le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance. Et David le dit dans son psaume de repentance, il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et Christ s'est profondément humilié. Il a reçu ce corps et il s'est soumis à la volonté de Dieu pour que nous puissions avoir la vie. Et ainsi, la Bible nous montre ici que ce sacrifice de Christ est efficace en rapport avec la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu que les animaux règlent la question du péché. Ça n'était qu'une image qui préfigurait le véritable sacrifice de Christ. Mais ce sacrifice offert ici répond parfaitement à la volonté de Dieu. Et on le voit particulièrement au verset 12. Regardez au verset 12 de notre passage. Il dit, verset 11 déjà, il dit « Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Il s'est assis perpétuellement, disent certains textes, pour toujours à la droite de Dieu. Il y a deux choses ici. Le fait que Christ s'est assis. Beaucoup de gens font remarquer que les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance n'étaient jamais assis. Jamais assis. Tandis, vous regardez le texte, tandis que tout sacrificateur fait, combien de fois ? Chaque jour, le sacrifice et offre souvent les mêmes sacrifices. Il dit, lui, il a offert une fois et il s'est assis. Et s'asseoir, c'est une manière de dire que le travail est achevé. Quand on a des enfants et qu'on leur demande de faire quelque chose, et puis on arrive dans la salle et qu'ils sont assis, on dit comment ? Ça ne va pas, tu es déjà assis ? Tu n'as pas terminé le travail. Tu ne peux t'asseoir que lorsque tu as terminé le travail à accomplir. Et le fait de s'asseoir ici, dans l'Écriture, en tout cas, cela communique un achèvement, un accomplissement. Et Christ dit dans sa prière, Jean chapitre 17, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire juste avant d'aller à la croix. Et sur la croix, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. Et ici, la Bible nous dit qu'il est maintenant assis. Il est assis. Et en ce qui concerne la question du péché, il est assis perpétuellement. Il est assis pour toujours. La Bible dit que Christ se lèvera, mais il se lèvera pour juger le monde. Mais là, en ce qui concerne la question du péché, il n'y a plus besoin de sacrificateur, il n'y a plus besoin de se lever. Cette question est définitivement réglée. Christ a définitivement accompli la volonté du Père. Et il est assis, nous dit le texte, donc ça montre ici l'achèvement de son œuvre, mais il est assis à la droite de Dieu. C'est une place d'honneur qui montre que Dieu agrée parfaitement le sacrifice qui a été accompli, que cela correspond point pour point à la volonté qui a, sa volonté qui a été exprimée. C'est pour ça que le texte dit que c'est en vertu de cette volonté, celle de Dieu, celle de Christ qui s'est soumis à la volonté de son Père et qui a épousé cette volonté, hein, dans le jardin, vous vous rappelez, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, que ta volonté se fasse. C'est bien dit qu'en vertu de cela, nous sommes sanctifiés. Parce que l'œuvre de Christ répond point pour point à la volonté de Dieu. Eh bien, nous, la volonté, les exigences de sainteté, de salut, d'expiation pour le péché, eh bien, en vertu de cela, nous sommes sanctifiés. Nous sommes même, le dit verset 14, amenés à la perfection. Donc, le sacrifice de Christ, ici, est efficace aussi en rapport avec la volonté de Dieu. Puis, troisièmement, on peut voir que le sacrifice de Christ est efficace aussi en rapport avec le croyant lui-même. Il dit, c'est en vertu de cette volonté que, le texte dit que nous sommes sanctifiés. Et puis, au verset 14, qui nous a amenés à la perfection pour toujours, il a amené à la perfection pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Nous sommes donc définitivement sanctifiés. Ici, c'est quelque chose qui est fait, qui est terminé, c'est fait, mais dont les bénéfices demeurent. Ici, nous sommes sanctifiés. Vous êtes sanctifiés. Si vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ, si le sacrifice, vous êtes approprié le sacrifice de Christ qui était accompli à la croix du Calvaire, la Bible dit que nous sommes purs, nous sommes sanctifiés, nous sommes parfaits. Du point de vue de Dieu, tout est accompli. Et quand il nous regarde au travers du sacrifice de Christ. Et nous pouvons nous tenir dans sa présence. C'est ce que l'auteur dit. Il dit un peu plus loin, je crois, il dit que nous avons, verset 19, « Ainsi donc, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. » Elle est libre parce que la conscience, elle est libérée, parce que nous sommes sanctifiés, parce que nous sommes parfaits. Il dit « Une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc. Voilà. Il y a donc la permanence de ce temps, la perpétuité de l'œuvre qui a été accomplie. Et cette œuvre est efficace en rapport au croyant lui-même, qui maintenant n'est pas comme le croyant de l'ancienne alliance avec la conscience du péché constamment. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient quand on pêche, ce n'est pas ça que ça veut dire. On doit toujours maintenir la conscience de ce qu'est le péché. Mais on n'est pas, nous pouvons avoir la conscience apaisée. Parfois, certains chrétiens sont troublés par le fait qu'ils pêchent encore. La Bible ne dit pas ici que nous ne péchons plus, mais il dit que nous ne sommes plus, que la question de notre péché a été réglée, de ceux qui sont en Jésus-Christ, a été réglée par le sacrifice de Christ. Et il dit bien qu'ils sont rendus parfaits, ceux qui sont sanctifiés. Je crois que le sens là ici, c'est ceux qui sont en train d'être sanctifiés. Donc il y a cette sanctification de position que l'on a en Christ, verset 10. Et puis verset 14 nous dit que nous sommes parfaits et que notre sanctification, néanmoins, continue. C'est pour ça que nous sommes encouragés à marcher dans la sanctification. La volonté éternelle de Dieu, c'est que qu'il y ait un peuple qui soit, la Bible nous dit, purifié par lui, je le lis, et zélé pour de bonnes œuvres. Tite chapitre 2, verset 14, dit que Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Ici. Et le sacrifice de Christ permet cela. Il dit son peuple est purifié, mis à part, c'est ce que ça veut dire, être sanctifié, mis à part pour lui, mis à part par Dieu et mis à part pour Dieu. C'est les deux, il ne faut pas dissocier les deux. Et nous pouvons ainsi librement accomplir de bonnes œuvres. Notons encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, l'impact sur la conscience. La conscience maintenant est purifiée afin que nous puissions servir le Dieu vivant et vrai. Donc le sacrifice de Christ est efficace en rapport avec avec l'homme lui-même, avec la conscience de l'homme lui-même, avec la position du croyant lui-même. Et cela doit encourager. Ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je crois, souligne à ses lecteurs, c'est que vous êtes dans une position particulière en vertu du sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est pas de l'orgueil que de le dire. Ce n'est pas être présomptueux que de le dire. C'est la Bible qui dit, vous êtes sanctifiés et vous êtes rendus parfaits. Il dit, voilà ce que Christ a fait. Il dit, son œuvre est efficace en rapport avec le péché. Son œuvre est efficace en rapport avec la volonté exprimée de Dieu parce qu'il s'est soumis lui-même. Et puis, son œuvre est efficace aussi en rapport avec vous-même, parce que maintenant vous pouvez être des véritables adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Vous pouvez vous tenir jusque dans la présence même de Dieu. La Bible dit même que nous sommes devenus des sacrificateurs parce que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu et lui offrir des sacrifices de louange à la gloire de son nom. Tout cela en vertu du sacrifice que Christ accompli à la croix du calvaire. Mais pourquoi tout cela? Pour nous encourager, premièrement, je crois, dans une marche, dans une vie de sanctification. Si nous ne méditons pas ce que Christ a fait, si pour nous, nous aurons du mal à marcher dans une vie de sanctification. Ce que nous sommes en Christ, nous motive à avancer davantage dans notre vie de sanctification. Comme disent certaines personnes, ils disent « Devenez ce que vous êtes. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes en Christ, vous êtes saint, mais devenez saint. » C'est l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il écrit à ceux qui sont sanctifiés, ceux qui ont été sanctifiés, c'est définitif, et puis il les appelle saints par vocation, appelés à être saints. Les sanctifiés sont appelés à être saints. Et ça, c'est la grande conclusion, je crois, que je voudrais tirer ici de ce passage, c'est que ceux qui sont en Christ et qui ont été sanctifiés sont appelés à être saints. Où est-ce que nous pouvons trouver de l'encouragement pour notre marche dans la sanctification? Bien dans la contemplation de l'œuvre de Christ. Et donc, tout le développement de l'auteur ici, c'est de nous faire saisir que cette sanctification dans laquelle Christ nous place doit se manifester dans notre vie par une sanctification pratique dans laquelle je m'approche, dans laquelle je retiens, dans laquelle je veille, dans laquelle je n'abandonne pas toutes ces exhortations qui viennent par la suite ici. Sanctifiés par Dieu, nous l'ai dit, et nous sommes sanctifiés donc pour Dieu. La Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens chapitre 6 et au verset 20. Et que nous devons donc glorifier Dieu dans notre corps et notre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous devons glorifier Dieu dans notre corps et notre esprit qui appartiennent à Dieu. Ce que Dieu a acquis lui appartient. Et notre être tout entier, notre corps et notre esprit lui appartiennent. Et ce qui doit motiver notre marche dans la sanctification, ça n'est pas comment nous considérons une chose. Parfois, nous disons... Les gens posent souvent cette question, mais est-ce que ça c'est bien ou est-ce que ça c'est mal? Est-ce que je peux regarder ce film-là ou est-ce que je peux aller dans cet endroit-là, etc. Et à chaque fois, pour chaque fois, il faudrait leur dire oui, non, oui, non, oui, non. Ce n'est pas ainsi que Dieu veut que nous considérions les choses. Il veut que nous considérions les choses d'abord en vertu du sacrifice de Christ qui a été accompli. Considérez le sacrifice, ce que cela a coûté. Combien la question du péché a été centrale dans le ciel? Quel prix a été payé pour nous racheter de nos péchés? Nous l'avons rappelé encore ce matin. Et à quel prix nous avons été acquis, dit ce texte que je viens de lire dans 1 Corinthiens 6. Et qu'est-ce que cela implique? Cela implique que je dois vivre une vie pure, qui va de progrès en progrès, dans laquelle je m'éloigne de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ce que je devrais me demander premièrement, c'est que est-ce que cela convienne avec ma position en Christ. Je suis un enfant de Dieu. Je suis saint. Est-ce que des choses impures doivent pénétrer en moi? Que ce soit par mes yeux, que ce soit par mes discussions, que ce soit par ce que j'entends, par ce que je fais, par ce que je lis. Est-ce que je peux permettre à ce qui appartient à Dieu d'être profané. Tout ce qui appartient à Dieu est saint. Et on le voit par le prix qu'il a payé pour l'acquérir. Et nous n'avons sur nous-mêmes aucun droit. Oh, ça me fait plaisir, j'ai besoin de me détendre. Niet. La Bible ne dit pas que je dois... C'est pas ça qui doit me guider. Ce qui me guide, c'est que j'appartiens à Christ. J'appartiens à Christ. Et c'est lui qui décide de ce que je peux faire ou que je ne peux pas faire. Ce n'est pas ma propre conception des choses. Et souvent, on s'appuie sur nos sentiments ou nos ressentiments pour savoir si on peut faire une chose ou pas. Et comme quelqu'un a dit, le senti ment. Ce qu'on ressent ment souvent. Hein. Donc, il faut pas faire confiance à la chair. Ce que Jérémie dit, malheur à l'homme qui met sa confiance dans la chair, qui prend la chair pour appui. Hein, on ne peut pas prendre la chair avec nos conceptions, notre réflexion comme appui. C'est la révélation de la parole de Dieu. C'est la révélation de ce que Christ a fait, de l'œuvre de Christ. On doit toujours considérer à travers le sacrifice de Christ en tant qu'enfant de Dieu pour décider d'une chose et surtout de ce qui doit entrer dans ma vie. Et puis je terminerai aussi en disant que ce passage est un appel à venir à Christ pour ceux qui ne sont pas encore à Christ. Il ne dit pas, bon, je n'ai pas envie de vivre une telle vie, donc je fais le choix de ne pas venir à Christ. Vous n'avez pas le choix. C'est pas, il n'y a pas d'alternative au fait de venir à Christ. On vient à Christ ou bien pour profiter, bénéficier de l'œuvre qui a été accomplie et de pouvoir dire, oui, en ce qui concerne mon péché, Christ est assis à la droite de Dieu. Ou bien on ne vient pas à Christ, on le verra se lever pour nous juger. Et donc la Bible ne laisse pas ici d'alternative. La Bible exige toujours une réponse. Et ce qui est dit ici exige que vous veniez à Christ, parce qu'il a offert sa vie. Et si vous venez à lui, eh bien, la Bible dit qu'il vous reçoit. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et donc, je vous encourage, je vous exhorte, je vous en supplie, venez à Christ, le Sauveur et le Seigneur, et qu'il puisse ainsi mettre votre vie dans ses mains, à l'abri, pour toujours, et que vous puissiez aussi dire... J'ai été amené à la perfection pour toujours en vertu de l'offrande unique du corps de Christ. Que le Seigneur nous aide à considérer ces choses. Je voudrais lire la dernière strophe du cantique 111 qu'on a chanté tout à l'heure. Cantique 111. Je trouvais, pendant qu'on chantait cela, ce matin... Et je pouvais le lire comme une exhortation, comme un encouragement pour nous. Cantique 111, la dernière strophe dit « Je te suis, en tant que chrétien redevable, mon sauveur adorable, de tout ce que je suis, mon âme et tout mon être, à toi seul doivent être, c'est le droit que tu t'es acquis. » Voilà, Christ a payé pour acquérir une âme. Et elle lui appartient. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous appartenez à Christ. Vous appartenez à Christ. Et c'est lui qui décide de ce que nous devons faire. Et sa volonté pour nous, c'est de nous rendre, la volonté de Dieu pour nous, c'est de nous rendre semblables à l'image de son Fils. Romains chapitre 8, verset 29. Il veut nous rendre semblables à l'image de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il œuvre dans notre vie, soit par la souffrance, l'Épître aux Hébreux le dit, hein, que la souffrance aussi participe à notre sanctification. Chapitre 12, verset 10 dit « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. C'est la volonté de Dieu que nous participions à sa sainteté. Qu'il utilise la souffrance, qu'il utilise un autre moyen pour le faire, nous lui appartenons. Et nous devons le glorifier, comme l'apôtre Paul le glorifiait lui-même, qui, quand il disait « Christ est ma vie et la mort, disait-il, m'est un gain. » Il dit « De toute façon, que ce soit par ma vie, que ce soit par ma mort, Christ sera glorifié dans mon corps. » Que le Seigneur nous aide et que sa parole nous aide à mener par son esprit une véritable vie de sanctification, parce que nous lui appartenons et c'est son plan de nous rendre semblables à l'image de son Fils. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Nous te remercions pour l'exposition qui nous est faite de ta personne, de la personne de Christ, de son obéissance. Et nous te demandons de nous aider en tant que tes enfants à considérer ces choses, à considérer même la pureté de ces choses, à considérer l'efficacité de sacrifice de Christ en ce qui concerne le péché, la volonté du Père et notre propre sanctification. Et que ces choses nous aident dans notre marche tous les jours avec toi. Aide-nous à obéir comme Christ a obéi. Bien souvent, nous entendons ta volonté, mais nous ne disons pas « Je viens pour faire ta volonté ». Seigneur, remplis-nous de cet esprit d'obéissance qui nous soumet chaque jour davantage à ta volonté que nous trouvons exprimée pour nous dans ta parole. Et fais de nous des enfants obéissants. Nous te demandons ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.